Vous écoutez, on lit pour vous.
Première coupe à l'aide sociale versée aux demandeurs d'asile. Un texte d'Isabelle Porteur paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir. Le gouvernement Legault a commencé à réduire le soutien social offert aux demandeurs d'asile présents au Québec en abolissant une allocation de quelques dizaines de dollars par mois offerte à ceux qui reçoivent de l'aide sociale. Des dizaines de milliers de personnes seront touchées. L'aide supprimée consiste en un ajustement offert aux demandeurs d'asile pour compenser le fait qu'ils n'ont pas accès au crédit de solidarité comme les autres prestataires de l'aide sociale. La somme accordée oscille entre 15 $ et 30 $ par mois selon la situation du prestataire, en couple, en colocation ou pas. La ministre responsable de la solidarité sociale, Chantal Rouleau, a adopté à la fin de mai un règlement qui prévoit l'abolition de cette mesure à compter du 1er octobre 2025. Cette coupe survient alors que le gouvernement Legault menace de sabrer l'aide sociale aux demandeurs d'asile si Ottawa refuse de réduire leur nombre au Québec. La semaine dernière, le premier ministre François Legault déclarait de nouveau ne rien exclure en la matière, y compris revoir l'aide sociale pour certaines personnes immigrantes temporaires. Aux yeux du collectif Bienvenue, qui vient en aide aux demandeurs d'asile, c'est de l'acharnement. Ça va venir empiéter sur leur capacité à se nourrir, notamment. Pour nous, c'est s'acharner sur les personnes les plus vulnérables de notre société, avance la directrice de l'intervention sociale de l'organisme, Maryse Poisson. En cette période de crise du logement, le chèque d'aide sociale ne suffit même pas à payer le loyer, ajoute-t-elle. Les gens ne souhaitent pas rester sur l'aide sociale. Moi, je vois des gens se débattre pour réussir à travailler. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale justifie sa décision par la nécessité de limiter ses dépenses et pointe du doigt le gouvernement fédéral. Le Québec accueille plus de demandeurs d'asile que les autres provinces en comparaison à son poids relatif dans la population canadienne, a-t-il expliqué par écrit au Devoir. La situation actuelle l'oblige à limiter ses dépenses, et ce, malgré les multiples demandes faites au fédéral sur cet enjeu. Le ministère souligne en outre que l'aide supprimée n'existe pas dans les autres provinces et qu'il doit s'assurer de la gestion rigoureuse, efficiente et équitable du budget des programmes d'assistance sociale. Questionné sur les économies générées par cette coupe, le gouvernement Legault n'avait toutefois pas d'estimation à fournir. On sait par contre qu'en 2024, l'aide sociale offerte aux demandeurs d'asile a coûté 507,7 millions de dollars au Trésor public québécois, soit 37 % de plus que l'année précédente, 369,4 millions. L'ensemble des demandeurs d'asile, adultes, résidant au Québec, soit près de 45 000 personnes, sera touché par la fin de cette mesure. Les personnes seules qui en bénéficient reçoivent 14,92 $ par mois, les couples 29,83 $, les personnes qui vivent en colocation 25,08 $. Rappelons qu'au Québec, les demandeurs d'asile peuvent recevoir des prestations d'aide sociale en attendant que leur demande soit traitée par le fédéral. Selon les calculs du gouvernement, les demandeurs d'asile comptent pour 28 % des personnes qui bénéficient du programme d'aide sociale de base, le moins généreux. En incluant les autres programmes, qui ciblent aussi les personnes inaptes au travail, cette proportion est plutôt de 17 %. Des améliorations ailleurs. Cette abolition a été insérée en mai 2025 dans l'un des règlements qui découle de la réforme de l'aide sociale présentée par Chantal Rouleau à l'automne 2024. Le règlement du 28 mai comprenait par ailleurs de bonnes nouvelles pour d'autres prestataires de l'aide sociale. Le gouvernement a notamment décidé de rembourser les frais d'entretien de certains appareils respiratoires et de baisser les taux d'intérêt imposés aux personnes qui accumulent des dettes envers l'aide sociale. Le ministère offre aussi une aide financière supplémentaire aux personnes qui ont un enfant handicapé à leur charge et augmente la prestation spéciale donnée aux prestataires victimes de violences qui sont hébergés dans une ressource. Les groupes de défense des droits sociaux continuent toutefois de dénoncer cette réforme parce qu'elle abolit les allocations mensuelles de 166 $ qui étaient données automatiquement aux prestataires de l'aide sociale de 58 ans et plus, ainsi qu'aux mères de familles monoparentales ayant à leur charge un enfant de moins de 5 ans. Cette aide est maintenue pour les personnes qui la reçoivent déjà, mais elle ne sera plus offerte aux prestataires qui entreront dans ces catégories à l'avenir. Le 11 juin 2025, trois groupes ont manifesté devant les bureaux de Mme Rouleau pour dénoncer cette réforme. L'Association pour la défense des droits sociaux du Québec métropolitain, l'Association de défense des droits sociaux de la Rive-Sud et le regroupement des femmes sans emploi du nord de Québec ont aussi pressé la ministre de renoncer à la coupe ciblant les demandeurs d'asile. En mai 2025, Le Devoir rapportait que d'autres services offerts aux demandeurs d'asile étaient compromis, cette fois du côté de l'aide juridique. C'était « Première coupe à l'aide sociale versée aux demandeurs d'asile », un texte d'Isabelle Porter paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir.
Parcourir les vignes en vélo pour mieux les comprendre. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 10 juillet 2025 dans La Presse. Deux chercheurs québécois ont fait 2300 km à vélo en Europe l'année dernière et viennent de reprendre la route ici au Québec en famille. Le but, aider les vignerons à s'adapter au changement climatique. Mélissa Stoya est géographe de formation. Elle fait du développement économique et est experte en économie circulaire. Son mari, Benoît Courcel, est ingénieur et enseigne à Polytechnique Montréal. Il est spécialiste des sols. Ensemble, ils ont créé l'expédition 20 parallèles qui vise à comprendre les défis des changements climatiques dans les vignobles et favoriser un transfert de connaissances entre les entrepreneurs de ce domaine, d'ici et d'ailleurs. Avec leurs trois filles, ils ont visité des vignobles au Maroc, en Espagne et en France en 2024, ce qui a demandé 190 heures de déplacement à vélo, afin de voir comment des entrepreneurs agricoles s'adaptaient au changement climatique. L'expédition a aussi permis de tester un outil développé à Polytechnique Montréal qui veut lutter contre l'érosion des sols dans les vignes. Au Québec, la viticulture est un secteur économique jeune et en développement. La filière est en pleine explosion, en plein essor, dit Mélissa Stoya, qui précise que depuis 1980, avec l'établissement du premier vignoble à Donham, on est passé de un permis de fabrication de vin à autour de 160 aujourd'hui. Et ce n'est pas anodin de dire qu'il y a des vignobles au lac Saint-Jean maintenant. D'un point de vue géographique, c'est un non-sens complet, poursuit-elle. D'un point de vue agricole, ça peut sembler aussi un non-sens. Mais en creusant, on s'est rendu compte, et c'est là où le voyage prend tout son sens, que les changements climatiques apportent des opportunités d'affaires. Face aux changements climatiques, les vignerons sont tous égaux. Leurs pratiques agricoles, elles, changent. On voulait aller voir des gens qui ont testé des solutions, précise Benoît Courcel, qui en a lui-même une dans ses bagages, littéralement. Transfert de connaissances. Dans son expédition sur deux roues, en fait 10 au total, la famille apporte un petit laboratoire portatif qui tient dans une glacière. Mélissa Stoya, Benoît Courcel et leur fille ont quitté Montréal fin juin vers Alma, en voiture, pour ensuite faire quelques kilomètres à vélo vers le parc national de la Pointe Taillon, véritable point de départ. Notre première grosse étape part de là, explique Benoît Courcel. Notre périple à vélo nous mènera ensuite jusqu'à Montréal sur une période d'environ 6 semaines et une distance de plus ou moins 900 kilomètres. À l'origine, ce sont les 3 vignobles du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui les ont attirés dans ce coin de la province. « On veut voir ce qui se passe là-bas », dit Mélissa Stoya. « Ce sont des vignobles qui sont plus jeunes que ceux des cantons de l'Est. » Dans un contexte où il y a plus de pluie, les chercheurs veulent mieux comprendre le phénomène d'érosion, particulièrement présent en viticulture. Ils vont prendre des échantillons de terre durant leur visite, comme ils l'ont fait lors de leur expédition européenne, pour faire une analyse de sol avec un traitement contre l'érosion à l'aide de bactéries indigènes. Peu d'essais de ce genre sont faits sur le terrain. Et les vignerons ont soif d'informations, disent-ils. Pour cette raison, au cœur de leur projet, il y a le transfert de connaissances entre des gens qui en ont beaucoup. La famille ne remplace pas un service de conseil agronomique commercial. Elle apporte des pistes de solutions qui viennent de l'industrie, des pairs, ainsi que des données scientifiques qui, elles, viennent du sol. « Il manque d'écoute », lance la géographe. « C'est typique des entrepreneurs. C'est dur d'être entrepreneur. Ce sont des métiers solitaires. » Ces 20 parallèles favorisent cet échange puisque ce que vivent des entrepreneurs agricoles, plus au sud aujourd'hui, risque d'arriver à leurs collègues plus au nord, éventuellement. Ces gens accumulent une quantité de données incroyables et de l'expérience terrain, dit Mélissa. Le duo veut servir de courroie de transmission entre les entreprises d'ici et d'ailleurs. La chercheuse a senti une grande ouverture des viticulteurs face à la nature scientifique de leur projet. Selon elle, dans une industrie naissante comme la vigne au Québec, tout ce qui concerne le transfert de connaissances est favorable. Ça pourrait éviter des erreurs évitables. C'est d'ailleurs l'une des conclusions de la première mouture de l'expédition. Les vignerons du Maroc, par exemple, voulaient éviter que leurs collègues espagnols fassent les mêmes erreurs qu'eux, comme de ne pas planter suffisamment de végétation dans un climat aride, ce qui crée de véritables déserts. Les viticulteurs soulignaient même qu'ils souhaitaient aller vers la permaculture pour optimiser la ressource en eau, précise Benoît Courcel. Une jeune industrie comme la vigne québécoise est aussi encore dans l'acquisition de connaissances. On se félicite de faire de meilleurs rouges avec plus de chaleur qui favorise le mûrissement des raisins. Mais si, d'un autre côté, l'érosion de nos sols et les précipitations trop abondantes font flétrir le fruit sur le pied, on n'est pas plus avancé, calcule Mélissa Stoya. On veut vraiment éveiller les consciences qu'il y ait une vraie opportunité pour cette filière, mais il faut la structurer comme il faut. Le volet scientifique. Benoît Courcel veut tester une méthode de traitement des sols développé à Polytechnique Montréal, pour limiter l'érosion et l'acidification des sols agricoles. Pour cela, le scientifique prélèvera des échantillons de sol et réalisera des analyses génétiques en laboratoire afin d'identifier les bactéries présentes, car la technique utilise certaines d'entre elles pour créer un liant naturel entre les grains de sol. C'était parcourir les vignes en vélo pour mieux les comprendre. Expédition 20 parallèles. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 10 juillet 2025 dans La Presse.
Faire son temps, une brique à la fois. Un texte de Sarah Champagne, paru le 4 août 2025 dans La Presse. Derrière les clôtures en mailles de chêne surmontées de fils barbelés de la prison de Sorel-Tracy, une initiative d'économie circulaire roule à fond de train. Du matin au soir, des prisonniers travaillent à recycler des tonnes de briques, surtout des rouges. Le tout grâce à une invention québécoise, une machine qui avale les briques pour ensuite les éjecter, prête à rebâtir des murs. Marc-Antoine Desrosiers est incarcéré dans cet établissement de détention provinciale de haute sécurité qui loge actuellement 345 contrevenants. Depuis un an, le jeune homme au regard lourd passe la plupart de ses journées dans un immense atelier où sont acheminés par camion des conteneurs remplis à ras-bord. Il manipule jusqu'à 300 briques bardées de mortier à l'heure, 5 jours par semaine. Mon but premier, en effectuant ce travail, est d'être fatigué à la fin de la journée, de parvenir à dormir le soir venu, admet-il, avant de proposer une démonstration à la presse. Le jeune homme se considère comme un privilégié de purger sa peine en travaillant dans la brique pour regagner sa liberté. Il fait partie d'une équipe de 3 détenus triés sur le volet pour accomplir la besogne. Ils ont suivi une formation et reçoivent un petit revenu, 35 % de moins que le salaire minimum. Leur pécule peut être dépensée en partie à la cantine de l'établissement et une portion est placée dans leur compte épargne. Une autre part est réinvestie dans un fonds de réinsertion sociale de l'établissement de détention. Un outil de réinsertion. Le programme de recyclage de la brique permet aux personnes incarcérées d'acquérir des compétences et d'espérer des équivalences professionnelles, explique Josiane Gendron, directrice de l'établissement de détention de Sorel-Tracy, et Danielle Darvaux, directrice des services correctionnels professionnels. Ça permet également de contrer l'oisiveté, dit Madame Gendron. Ça fait partie de leur réinsertion, ça va les aider, une fois à l'extérieur des murs, à se trouver un emploi. Les candidats choisis sont retenus pour leur capacité à tenir une routine, à se lever tôt le matin. Ils ont le privilège de vivre dans un petit secteur à part de la prison, avec une aire de vie distincte. Un endroit où logent les détenus affectés aux cuisines, à la buanderie, à l'atelier de couture, à la réparation des matelas en cellule. Rien n'est perdu. Marc-Antoine Desrosiers enfile de l'équipement de protection contre la poussière et des bouchons pour les oreilles avant de démarrer la bruyante machine. Il place d'abord la brique sur un étau à l'entrée d'une petite portière coulissante. La brique est balayée par des lasers et propulsée à l'intérieur. Le mortier qui entoure la brique est découpé de façon chirurgicale en quelques secondes. Une fois propre, la brique est éjectée d'un coup sec. Avec une pince, le détenu la place sur une palette avec des centaines de briques prêtes à être réutilisées sur des chantiers. Rien n'est perdu, pas même le mortier. L'inventeur de la machine, baptisée Brick Russick, se nomme Tommy Bouillon. L'entrepreneur est également président de Maçonnerie Graton. Il a eu l'idée de revaloriser la brique avec ses associés au détour de la pandémie, explique-t-il. Il a d'abord eu l'idée de recruter de la main-d'œuvre étudiante, mais le travail est routinier, dur, et la rétention du personnel n'est pas une mince affaire. L'option de s'associer à une prison est venue tout bonnement, il y a quelques années, lors d'une discussion avec une professionnelle de la sécurité publique. Le plus gros défi, explique M. Bouillon, a été de trouver une façon de transporter la brique à coût nul. Il a réussi à conclure une entente avec une entreprise de camionnage. Au lieu de revenir avec une remorque vide après une livraison, les camionneurs se chargent de ramasser des conteneurs de briques Russick pour les acheminer à la prison de Sorel-Tracy. Au centre de détention de Sorel-Tracy, il y aura bientôt une deuxième machine pour valoriser les briques provenant de chantiers de démolition. Quand Marc-Antoine Desrosiers aura recouvré sa liberté, un autre détenu prendra sa place. Il espère former la relève. « Je veux donner au suivant », dit-il. La brique recyclée se vend entre 2,50 $ et 3 $ l'unité par l'entreprise. C'est plus cher que la neuve, mais il n'y a pas de frais d'enfouissement, sorte d'éco-frais. Et c'est de l'économie circulaire. Selon les calculs de Brique Recycle, le réemploi de la brique sur un mur de 1000 pieds carrés permet d'éviter l'émission de près de 6 tonnes de dioxyde de carbone, CO2. L'entreprise a conclu récemment un partenariat avec la cimenterie Lafarge pour recycler le mortier. Quand la brique passe à travers la machine, le mortier tombe dans un récipient en dessous. La substance ressemble à de l'argile. Elle est emballée dans des sacs et acheminée aux installations de la cimenterie, entre autres à Saint-Constant sur la rive sud de Montréal. Le mortier redevient donc ciment. En savoir plus, source Brique Russick. 402 881. Nombre de briques revalorisées en 2024, la majorité au centre de détention de Sorel-Tracy. 445,47. Émission de GES évitée en tonnes équivalent CO2. C'était « Faire son temps une brique à la fois », un texte de Sarah Champagne, paru le 4 août 2025 dans La Presse.
Poste Canada célèbre Julia Aogak Ogina. Un texte de Karine Lavoie, paru le 8 juillet 2025 dans le Nunavoie. La linguiste, autrice, professeure de danse du tambour et leader autochtone Julia Aogak Ogina a été mise en vedette sur un timbre postal. En circulation depuis le 20 juin dernier, veille de la Journée nationale des peuples autochtones, la pièce d'affranchissement découle d'un processus de recherche et de conception de près de 2 ans. Lancée en 2022, la série sur les leaders autochtones de Post-Canada souligne l'implication d'Inuits, de Métis et de membres des Premières Nations qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer le niveau de bien-être des peuples autochtones à travers le pays. Le timbre à l'effigie de Julia Aogak Ogina présente une photo de la femme prise en 2021 alors qu'elle se trouvait au festival Kajik d'Iqaluit en tenue de danse du tambour. Faire briller une pratique traditionnelle. Lisa Liu, des relations avec les médias pour Post-Canada, indique que chaque année, la Société d'État reçoit des dizaines d'idées de timbres de la population canadienne. Dans le cas de Gina, c'est l'organisation Inuit Tapirit Kanatami, ITK, qui a soumis cette candidature. Toutes ces suggestions sont présentées au comité consultatif sur les timbres poste, qui regroupe des personnes indépendantes expertes dans leur domaine. Post-Canada déploie un maximum d'efforts pour maintenir un équilibre entre les différentes régions et cultures en choisissant des sujets et des motifs qui illustrent fidèlement la diversité du Canada, dit Lisa Liu. Reconnue pour son implication dans la protection et la promotion de la culture et des langues de ses ancêtres, ainsi que pour sa contribution à un projet pour trouver des chansons de danse du tambour oubliées, Ogina exprime avoir d'abord été incrédule face à cette annonce. Elle affirme qu'elle croyait que cette reconnaissance était plutôt destinée à des personnes plus âgées ou encore décédées. Ayant grandi au rythme des tambours, l'honoré estime que cette pratique traditionnelle représente avant tout une célébration et une façon d'exprimer les expériences vécues par les Inuits. Les danses du tambour ont une grande importance culturelle. Elles offrent un espace de rassemblement communautaire, d'expression spirituelle et de transmission du savoir ancestral. Le 13 juin dernier, à Ulukatok, au territoire du Nord-Ouest, une cérémonie a eu lieu pour le dévoilement officiel du timbre. L'événement s'est déroulé dans ma ville natale avec ma famille tout autour de moi, car c'est là que j'ai d'abord appris ce que je sais de mes racines culturelles et de la façon dont les Inuits se sont connectés à la terre, aux animaux et à l'environnement, a déclaré Julia Aogak Ogina. Pour sa famille, ce n'est pas la première fois que l'un de ses membres est mis en lumière par Poste Canada. En 1979, une œuvre d'Hélène Calvac, l'arrière-grand-mère de Julia, a été représentée sur un timbre intitulé « The Dance ». Une richesse pour la région. Agissant à titre de gestionnaire linguistique pour la Kitikmeot Inuit Association, KIA, Ogina participe à la création d'un cadre linguistique régional et de programmes favorisant l'apprentissage oral et le transfert des connaissances. Contactée pour commenter la nouvelle, la KIA se dit extrêmement fière que l'une des leurs ait été choisie pour être honorée par Poste Canada. Julia mérite cette prestigieuse reconnaissance pour toutes ses réalisations et ses efforts visant à préserver, protéger et promouvoir la langue et la culture inuite. Nous sommes fiers de ses accomplissements, tant personnels que dans le cadre de son rôle à la KIA. Sa présence, son dévouement et son expérience nous rendent encore plus efficaces pour soutenir le bien-être et le développement culturel de la communauté inuite de Kitikmeot, a déclaré la Kitikmeot Inuit Association. De façon hebdomadaire depuis 2 ans, Ogina dirige des danses du tambour avec son mari. Par ses enseignements, elle souhaite ainsi passer peu à peu le flambeau. C'est en préparant la prochaine génération que nous gardons la langue vivante. C'était Poste Canada célèbre Julia Aogak Ogina. Un texte de Karine Lavoie paru le 8 juillet 2025 dans le Nunavoie.